France Culture.
Après sa condamnation définitive le 18 décembre dernier dans l'affaire des écoutes, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy est jugé depuis le 6 janvier dernier pour le financement libyen présumé de sa campagne de 2017. Cette affaire est le fruit d'un travail journalistique de 14 ans initié et conduit par Mediapart, mais la façon dont la presse l'a diffusé, relayé, la répartition du temps de parole médiatique entre la défense et les accusés peut poser question. Alors une question justement ce soir, au-delà même d'ailleurs de cette affaire dite Sarkozy-Kadhafi, les médias traitent-ils comme il se doit des affaires politico-judiciaires? Et pour tenter d'en débattre, deux invités ce soir, Antoine Rouget, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au pôle enquête de Mediapart. La série d'articles de votre journal sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi fait l'objet d'un documentaire signé Yannick Kergoat. Il est signé Personne n'y comprend rien et il est en salle depuis le 8 janvier dernier. Face à vous, Georges Fenech, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien juge d'instruction à Lyon, député honoraire du Rhône, les Républicain, mais vous n'avez aujourd'hui plus d'engagement politique. Merci à vous deux d'être ce soir dans Question du soir.
Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine? Alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi.
Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
Vous en avez parlé vous-même hier soir.
Honte. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte.
David Pujadas, puis Nicolas Sarkozy lors du troisième débat de la primaire des Républicains. C'était le 17 novembre 2016. C'est un moment qui cristallise très vivement, très fortement la défiance revendiquée, même assumée, à l'égard du service public, à l'égard de la presse en général, de la part d'un ancien président de la République, Antoine Rouget. Que raconte-t-il ce moment du récit médiatique qui est fait de l'affaire dite Sarkozy-Kadhafi?
D'abord, c'est l'un des rares moments où Nicolas Sarkozy est interrogé, en réalité, alors qu'il a multiplié les passages télévisés pendant 14 ans. Moi, ce que je retiens de cette séquence, c'est quand même un déséquilibre impressionnant entre à la fois la gravité des faits qui sont au cœur de cette enquête et aujourd'hui du procès dans lequel Nicolas Sarkozy est sur le banc des prévenus avec plusieurs de ses anciens ministres et le peu de médiatisation autour de cette affaire et je dirais d'explication de la réalité de ce dossier. Et l'autre déséquilibre qui m'impressionne énormément, c'est la manière dont ce dossier a été appréhendé, a toujours été sous le prisme de la défense de Nicolas Sarkozy.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que les rares passages télévisés l'ont été à des moments très précis, liés par exemple à des mises en cause judiciaires de Nicolas Sarkozy qui sortaient soit de garde à vue, soit bureau des juges d'instruction et qui avaient accès et tout loisir pour déployer son narratif autour de cette affaire. On l'entend là encore une fois face à David Pujadas et jamais n'a été exposé et mis sur la table à titre d'information pour le public, les éléments qui fondaient les mises en cause judiciaires de Nicolas Sarkozy, si bien que on a eu l'impression pendant 14 années d'avoir soit des moments de creux où on ne parlait jamais de cette affaire, ou sinon des fortes expositions médiatiques, mais toujours autour du narratif et de la stratégie de Nicolas Sarkozy.
Est-ce que vous êtes d'accord, Georges Fenech, avec ce double constat? D'abord, un récit faible, peu exposé par les médias d'abord, et dans le même temps, un récit toujours commandé, selon Antoine Rouget, par la défense.
D'abord, il faut préciser pour nos auditeurs que je ne suis pas un débatteur aujourd'hui totalement impartial. Je ne le peux pas.
Personne ne l'est jamais, d'ailleurs.
Oui, non, mais je précise quand même, j'ai été député, disons, sarkozyste, Je connais très bien Nicolas Sarkozy, avec lequel j'ai entretenu des rapports d'amitié, je peux le dire, même en dehors de la politique. Et donc, je viens à votre micro en conscience, c'est-à-dire avec la volonté d'être le plus objectif possible dans la question qui nous préoccupe, c'est-à-dire les relations entre, effectivement, la presse et la justice. Alors, si vous me permettez de relever ce que vous avez dit « cette affaire est le fruit de 14 années de travail journalistique ». Permettez-moi de nuancer. C'est aussi le fruit d'un travail judiciaire.
Qui est arrivé dans un second temps.
Et qui est arrivé, disons, parallèlement, suite à ce document dont s'était procuré, que s'était procuré Mediapart.
Mais pas que.
Pas que, évidemment. Mais c'est vrai que Mediapart a fait un travail d'investigation, de journalisme d'investigation, que personne ne peut contester, et moi-même, je ne contesterai pas. Je suis profondément attaché, je tiens à le préciser aussi, à la liberté de la presse. Je reprendrai à mon compte la formule de la Cour européenne des droits de l'homme, la presse chienne de garde de la démocratie, voyez-vous. Donc là-dessus, il faut que ce soit bien clair. Mais, quelquefois, je m'inquiète, si vous voulez, des relations un peu pernicieuses qu'il peut y avoir entre la justice et la presse, au détriment de l'un et de l'autre. Et je pourrais vous en parler à titre d'expérience personnelle, d'ailleurs, parce que j'ai eu à instruire des affaires politico-financières. Donc, pourquoi vous étonnez, effectivement, vous dites il n'y a pas de traitement véritablement médiatique sur le fond de cette affaire, ce qui est vraiment la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est pas tout simplement parce que en dehors de Mediapart, beaucoup de journalistes s'interrogent sur la réalité de ce dossier contre Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il existe vraiment des preuves définitives ? Je ne le crois pas. Je pense que le procès va permettre d'y voir plus clair. Mais en l'état actuel, ce sont, disons, des faisceaux. J'ai lu l'ordonnance de renvoi aussi, qui est très accablante. Hein. Ce sont des faisceaux, des présomptions, des indices graves et concordants, mais qui forgent une conviction. Mais il n'y a pas une preuve absolument définitive que Nicolas Sarkozy a signé un pacte de corruption et a encaissé de l'argent libyen. C'est peut-être pour ça que le traitement est plus géant et plus prudent que vous ne l'avez fait alors que vous êtes engagé, vous, sur une ligne que, encore une fois, je ne remets pas en cause, mais qui est une ligne de responsabilité et de culpabilité.
Antoine Rouget vous répond, et on peut d'ailleurs poser la question plus large, faut-il des preuves irréfutables pour que le champ médiatique s'empare d'un sujet ?
Non, mais pour préciser mon propos, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les fois où un récit médiatique s'est imposé autour de cette affaire, notamment dans des médias audiovisuels, mais pas que, hein, c'est le cas aussi de la presse écrite, de la presse quotidienne nationale ou même la presse magazine, ça a toujours été à des moments organisé par la défense de Nicolas Sarkozy. Et l'un des événements les plus notables dans cette affaire, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de l'affaire des financements libyens qu'en 2020, quand a été organisée la fausse rétractation d'un des protagonistes du dossier, qui est un intermédiaire clé dans les versements d'argent, qui est Ziad Takieddine. Ouais. Et donc on sait aujourd'hui, il est démontré qu'un témoignage de Ziad Takieddine a été acheté pour qu'il revienne sur des précédentes déclarations assez accablantes contre Nicolas Sarkozy et qu'il le disculpe.
Ça, on c'est sait vous qui aujourd'hui, le dites, hein. On pour sait aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation.
Non, mais on sait aujourd'hui matériellement que il a fait l'objet de promesses de versement et tout ça est documenté aujourd'hui. Et donc que cette rétractation était en réalité un montage. On ne sait pas exactement quel est le niveau de responsabilité et d'implication, et ça, c'est la justice qui le déterminera. Mais par contre, on sait que ce témoignage a été acheté. Eh bien, on n'a jamais autant parlé de l'affaire libyenne au moment de cette fausse rétractation, parce qu'elle correspondait à un narratif qui visait à disculper l'ancien président de la République. Et c'est ça que je dis, c'est que c'est pas simplement qu'il peut y avoir des doutes raisonnables sur la réalité de telle ou telle information, mais je constate que les grands médias qui ont pourtant des moyens d'investigation n'ont pas investi pendant 14 ans cette affaire de manière à vérifier les informations que nous publions alors.
Georges Fenech, justement, sur ce point précis, comment vous expliquer que Mediapart ait été relativement isolé dans cette enquête, que d'autres médias qui ont, comme le précise Antoine Rouget, des moyens pour procéder à des travaux d'investigation ne se soient pas emparés eux-mêmes de ce sujet, de cette affaire.
Ah, vous me posez une question difficile. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi la presse d'investigation a un peu reculé dans notre société par rapport à une certaine époque que moi j'ai connue. il y avait des grands reporters, des grands journalistes, je peux en citer, je les ai connus à l'époque, qui faisaient vraiment des investigations pour l'Express, pour Le Point, pour Le Monde, pour Le Canard Enchaîné. Ils ont quelque peut-être que écrasés par la qualité de ce Mediapart qui arrive comme ça et qui est difficile de concurrencer, j'en sais rien. Mais effectivement, vous avez une position quasiment monopolistique, je dirais. Quand on pense à journaliste d'investigation, notamment dans ces matières-là, on pense immédiatement à Mediapart, on ne pense plus au Canard Enchaîné, comme on pensait à une certaine époque au journal Le Monde, hein, voyez-vous. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à cette question.
Sur l'autre point que vous souleviez un peu plus tôt dans cette discussion, Georges Fenech, vous mentionniez les effets de collusion entre la justice et les journalistes. Est-ce que vous pourriez expliciter ce point-ci ?
Oui, je pense qu'il faut se prémunir de ce risque. Parce que si vous avez le couple infernal juge-journaliste, rien ne peut lui résister.
Comment il se manifeste ?
Moi, je suis très très attaché, comme vous, je n'en doute pas, à la présomption d'innocence. Ouais, c'est pas, pour moi, c'est pas un vain mot. Imaginez, vous vous souvenez qu'on parlait de la jurisprudence Balladur ? Tout ministre mis en examen est tenu de démissionner. J'ai revérifié par acquis de conscience avant de venir vous voir. Ces trois ministres qui avaient été mis en examen et obligés de démissionner sous Balladur, c'était Gérard Longuet, Michel Roussin et Alain Carignon. Alain Carignon a été condamné. Gérard Longuet et Michel Roussin ont été relaxés. Et pourtant, ils ont été obligés de démissionner. Si je vous dis Roland Dumas, vous allez me dire, oh là, les affaires, Elf, etc. Vérifiez. Il a été relaxé. Il a été obligé de démissionner sa présidence du Conseil constitutionnel. Mais je pourrais vous citer toute une série comme ça. Plus récemment, Éric Dupond-Moretti, vous imaginez, s'il avait été obligé de démissionner alors qu'il a été, au fond, relaxé. Donc, alors imaginons maintenant, alors ça c'est vraiment le rêve peut-être intouchable, imaginons que Nicolas Sarkozy soit relaxé. Imaginons, hein, je dis bien, imaginons qu'il soit relaxé. C'est cette affaire qui lui fait perdre l'élection présidentielle en 2012. Et vous avez passé un extrait d'un débat des primaires. C'est cette affaire qui lui fait perdre, sans doute, en grande partie, les primaires. Le préjudice, il est déjà, pour un homme politique, il est déjà acté, ce préjudice. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, attention à la présomption d'innocence.
La présomption d'innocence, d'accord, mais j'ai du mal à voir le rapport entre la présomption d'innocence qui doit être respectée, je pense qu'on est bien d'accord là-dessus, et cette collusion que vous mentionniez entre le politique et le judiciaire.
Bah oui, parce que, écoutez, Mediapart ou d'autres journaux nous ont habitués, mais c'est pas d'aujourd'hui, à sortir vraiment en facsimilé ou in extenso des procès-verbaux, des procédures judiciaires. D'où ça sort ? Il y a un secret d'instruction, que je sache. Alors, ceux qui sont soumis au secret d'instruction, il y a bien quelqu'un, que ce soit un juge, un avocat, un commissaire, qui a refilé le PV au journaliste, voyez-vous. Je suis aussi attaché au secret des sources, hein, c'est pas la question. Et d'ailleurs, il est protégé par la loi. Mais vous voyez bien qu'il y a une responsabilité, non pas de la presse, au fond. Parce que je pense que Mediapart, il y a une éthique professionnelle, comme dans toute la presse, même s'il n'existe pas un organe régulateur comme il existe pour l'audiovisuel. Mais je pense que, au fond, si vous voulez, les rapports qu'entretiennent des journalistes avec des juges sont quelquefois borderline et peuvent aboutir à des préjudices irréparables. Et ça, je peux vous donner des exemples. Et c'est pour ça qu'au fond, après réflexion depuis tant d'années, je pense que le vrai responsable dans cette affaire, c'est notre système inquisitoire. Et qu'il faudra bien un jour ou l'autre crever l'abcès, s'interroger sur faut-il maintenir notre système d'instruction à la française. On est les derniers, hein, en démocratie, avec la Belgique, à avoir ce système-là. Moi, je suis pour une justice transparente. C'est-à-dire celui qui est mis en examen, ben, il peut se défendre publiquement.
On va y revenir. Je voudrais simplement qu'Antoine Rouget vous réponde justement sur ce point précis du secret de l'instruction, qui est un grief qui est parfois porté justement aux opposants déclarés de Mediapart.
D'abord, je vais faire une courte réponse sur la dernière phrase de Monsieur Fenech, je crois que Nicolas Sarkozy, mis en examen, a eu tout loisir pendant des années de se défendre publiquement. Après, on peut interroger les délais d'instruction et de ça, mais il a eu un accès que beaucoup de mis en examen n'ont pas aux médias et aux plus grands médias de ce pays. L'autre élément sur la question de la collusion, elle revient régulièrement. Moi, je suis très à l'aise avec ça. C'est que on fait beaucoup d'enquêtes d'initiative à Mediapart. En fait, le dossier de l'affaire libyenne est né à Mediapart alors qu'il n'existe pas judiciairement.
Oui.
Une enquête d'initiative et pendant 14 ans, ça a été en fait une enquête qu'on a menée de A à Z avec nos sources. Évidemment, quand la justice en a parlé avec ses moyens, eh bien, elle a pu recouper un certain nombre d'informations, peut-être aller au-delà sur notamment la traçabilité de certains flux bancaires, etc. Nous, on n'a pas des pouvoirs d'investigation qui sont ceux de la justice ou de la police, mais c'est une enquête en fait d'initiative, et on fait pas du journalisme de procès-verbal à Mediapart.
Mais vous avez accès parfois à ces procès-verbaux.
Ah, ben bien sûr,
parce que vous l'expliquez justement sur ce sujet, pour revenir dessus, sur ce sujet du secret de l'instruction.
Parce que nous, on cherche des sources partout. En fait, notre travail, c'est de recouper des informations et d'avancer dans notre...
Oui,
dans
comme Monsieur Antoine Rouget, sans doute professionnel, tout à fait respectable, vous dit de manière très naturelle, mais oui, j'ai accès à la procédure. Ça nous a été dit pendant l'affaire d'Outreau, je me souviens aussi. Mais oui, j'ai eu accès à la procédure. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Antoine Rouget termine.
Oui, mais pendant 14 ans d'enquête, on a pris les informations là où elles se trouvaient, de manière à reconstituer.
Sauf qu'elle est protégée normalement, cette information.
Oui, mais nous n'avons jamais été condamnés pour violation du secret d'instruction. Oui. Nous n'avons jamais été condamnés pour, ni même poursuivis pour atteinte à la présomption d'innocence. Oui. Nous avons été, et nous avons fait l'objet de nombreuses plaintes pour diffamation, pour faux, oui. Usage de faux, etc. Et en fait, on a gagné toutes nos procédures. Donc, on ne se considère pas au-dessus des lois. On répond en responsabilité de notre travail. On arbitre, évidemment, à chaque fois, et on vérifie toutes nos informations. On arbitre en responsabilité avant de publier des articles. Et notre travail, en fait, il a été contesté devant les tribunaux par Nicolas Sarkozy et un certain nombre des protagonistes de cette affaire. Et il n'a jamais été fait l'objet de condamnation. Et s'il y a collusion, il y a dans cette affaire... entre des médias et des protagonistes, c'est pas avec la justice. Ça a été démontré qu'il y avait des collusions entre Nicolas Sarkozy et certains patrons de presse. Et ça, c'est la collusion qui m'inquiète d'un point de vue démocratique. Quand on voit les médias du groupe Lagardère, détenus par Arnaud Lagardère, qui considère son Nicolas Sarkozy comme son frère et qu'il déclare qu'il a demandé à un de ses journalistes de rééquilibrer le narratif autour de cette affaire. Quand on voit les relations entre Nicolas Sarkozy et Vincent Bolloré, qui est également un patron de presse. Quand on voit les relations entre Nicolas Sarkozy et Martin Bouygues, qui est également propriétaire de médias, eh bien là, il y a des collusions qui ont, selon moi, qui doivent nous interroger et qui ne sont pas celles, effectivement, peut-être fantasmées entre la justice anticorruption et Mediapart.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'Hervé Gattegno. Il est directeur de la rédaction, l'ancien directeur de la rédaction de Paris Match. Il était interrogé par Anne-Elisabeth Lemoine au sujet de la fausse rétractation de Ziad Takieddine. C'était le 12 novembre 2020 sur le plateau de C'est à vous.
Bonsoir Hervé Gattegno.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir alors que Paris Match, que vous dirigez, publie les nouvelles confessions de Ziad Takieddine qui opère un revirement dans l'affaire Karachi. Est-ce que c'est lui qui vous a contacté parce qu'il avait ces nouvelles déclarations à faire ou est-ce que vraiment vous l'avez recherché et convaincu de vous parler?
Non, c'est ni l'un ni l'autre, comme souvent. Alors, ça ne vous étonnera pas, je ne vais pas vous révéler tous les secrets du making-of de cette interview, parce que sinon, ça casse le métier, comme on dit. Et puis, il y a le secret des sources des journalistes. Mais quand je dis que c'est ni l'un ni l'autre, c'est au fond, on l'a rencontré, il a parlé. Vous savez, en général, Ziad Takieddine, il n'y a pas besoin de le pousser beaucoup pour qu'il parle.
Georges Fenech, justement, sur une autre collusion, un autre type de collusion entre médias et politiques, cette fois-ci, est-ce que ça peut entraver la bonne poursuite des affaires judiciaires et leur bonne conduite?
J'ose espérer quand même qu'il y a dans notre pays que des journalistes indépendants qui font leur travail. Et vous parlez de relations qui sont tout à fait naturelles entre le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, des grands patrons, y compris des grands patrons de presse, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se fréquenter dans une démocratie. L'important, c'est que le patron de presse, qui est un industriel en règle générale chez nous, hein, c'est ça, c'est une entreprise économique, n'intervient pas dans les rédactions. On est ici dans une rédaction qui est le service public. Vous avez d'autres rédactions, c'est le secteur privé. Moi, j'interviens souvent dans le secteur privé. Je peux vous dire que jamais on a eu une intervention, moi en tout cas, à titre personnel, de qui que ce soit, et surtout pas de M. Bolloré, ni de qui que ce soit. Et je dis ce que je veux à l'antenne, voyez-vous. Donc je pense que l'important... Alors on peut discuter effectivement sur comment, à qui doivent appartenir... aux États-Unis, vous n'avez pas d'industriel qui possède des journaux. En France, effectivement, il y a cette particularité que des grandes entreprises industrielles qui concourent à des grands marchés publics, que ce soit dans l'armement ou ailleurs, sont aussi propriétaires d'un certain nombre de journaux. C'est un vrai sujet. Moi, c'est pas tabou pour moi d'en discuter, si vous voulez. Hein.
Non, mais on sait néanmoins que...
Mais pour autant, les journalistes doivent une rédaction est indépendante.
On sait bien néanmoins que la ligne d'une rédaction, la ligne d'un article de presse, n'a pas besoin d'une intervention directe, formelle, pour être modifiée ou tempérée. C'est souvent...
Il y a une ligne éditoriale.
Antoine Rouget, sur ce sujet.
L'affaire des financements libyens a démontré qu'il y a eu des interventions directes. La fausse rétractation de Ziad Takieddine,
une manipulation.
Oui, mais ce ne sont
si
pas
c'est
les...
établi. Hein.
Mais ce ne sont pas les journalistes de terrain qui voulaient travailler sur cette affaire qui ont été empêchés ou qui ont été manipulés. L'information et la fausse information est venue d'en haut. On voit que Arnaud Lagardère était dans le circuit à ce moment-là. Il échangeait avec Hervé Gattegno, dont on a entendu un extrait tout à l'heure. Et on a vu à BFM TV que l'information était arrivée par le haut, par des relations très fortes entre une communicante proche du pouvoir, Mimi Marchand, et Marc-Olivier Fogel, qui était...
Ni Hervé Gattegno, ni Arnaud Lagardère sont mis en cause dans cette affaire. Il y a Mimi Marchand, effectivement.
Hervé Gattegno est témoin assisté.
Mais il n'a pas été mis en cause.
Non, mais c'est pas une mise en cause judiciaire. Moi, je parle de collusion médiatique, et je trouve que à l'aune de l'ouverture de ce procès, notre sphère médiatique va aussi devoir réaliser à un moment son examen de conscience vis-à-vis de ça. C'est pas possible de constater que pendant 14 ans. Vous parliez de peut-être de la place qu'a pris Mediapart, mais elle est pas saine, cette place, en fait. Moi je peux pas me résoudre à vivre dans un...
Vous voulez détruire le monopole de Mediapart en matière d'investigation?
Non, mais il faut croiser les regards. On peut pas se contenter ça de cela en démocratie. Il faudrait qu'il y ait de la concurrence, que les journaux se stimulent les uns entre les autres. On peut pas se résoudre à dire Mediapart a fait le travail et donc on passe à autre chose. Pour moi, la question de l'examen de conscience et de l'analyse de ce qui s'est passé devrait traverser toutes les rédactions en France.
Moi, ce que je tiens à relever quand même, et qui me plaît chez Mediapart, c'est qu'il n'y a pas, de mon point de vue, contrairement à ce que j'entends quelquefois, de cible politique. Ce sont eux qui ont soulevé l'affaire Cahuzac. Moi, j'étais membre de la commission d'enquête. Je me souviens de l'audition de Fabrice Arfi, notamment. Hein. Donc il n'y a pas, si vous voulez, une cible, il n'y a pas...
Ce n'est pas une officine politique, comme certains le disent parfois.
Je ne veux pas croire ça, et je ne le crois pas, qu'il s'agit d'une officine. Le seul danger que je vois, mais j'ai bien compris, j'entends bien que vous y prenez garde, c'est de ne pas confondre les rôles. Vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas procureur. Et d'ailleurs, Fabrice Arfi, dans le documentaire que j'ai vu, qui est un très bon documentaire, le dit bien au début. Attention, hein, c'est la justice qui le dira. C'est très important. Vous avez une responsabilité en tant que journaliste qui est écrasante, surtout quand elle concerne des hommes publics, qu'ils soient politiques, journalistes, artistes, écrivains, des gens qui ont besoin de leur notoriété. À partir du moment où le nom apparaît dans une affaire, c'est toute leur carrière qui est en jeu. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une éthique professionnelle au-dessus de tout.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'Éric Dupond-Moretti. Cette fois, il s'exprimait pour La Croix. C'était le 2 mai 2019.
Vous dites que je tire sur les médias. C'est pas vrai. Je tire sur certains médias. Il faut se méfier des classifications. Il n'y a pas la magistrature. Il y a des magistrats, d'excellents, des moyens, des mauvais. Il y a le barreau avec de bons avocats, des moyens, des mauvais. Et puis, il y a les médias avec d'excellents journalistes, des moyens et des mauvais. Donc je tire sur les mauvais, moi. Je tire sur ce que j'appelle une nouvelle race de journalistes qui s'est affranchie, comme d'ailleurs un certain nombre de nouveaux juges, d'un certain nombre de règles déontologiques. Et d'ailleurs, ces nouveaux magistrats travaillent main dans la main avec ces nouveaux journalistes. Je pense en particulier à Mediapart, mais je pense à d'autres émissions, et j'ai cité effectivement des émissions où L'investigation, avec un I plus que majuscule, permet tout.
Comment vous expliquez, Antoine Rouget, cette accusation incessante de tous les bords politiques, d'ailleurs, de cette collusion présumée, on insiste évidemment sur le qualificatif, entre journalistes et les juges d'un côté ?
Certaines catégories de juges, par ailleurs. Parce que la justice anticorruption est devenue une espèce de poupée vaudou d'un certain nombre de responsables publics qui sont lourdement mis en cause, en fait, par cette justice. Quand on voit l'agenda judiciaire d'un certain nombre de partis politiques et ce qui se présente devant nous au printemps avec le dénouement de ce procès extrêmement important pour Nicolas Sarkozy, mais aussi une décision de justice qui va être rendue pour Marine Le Pen avec un risque réel, hein, d'inéligibilité, on comprend qu'il peut y avoir des intérêts convergents à attaquer cette justice. C'est d'ailleurs Éric Dupond-Moretti qui est très proche, hein, de l'ancien avocat et ami de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, condamné lui aussi dans l'affaire de corruption Bismuth, n'a eu de cesse que de dénigrer et de mettre en cause certains magistrats. Et aujourd'hui, le tribunal administratif de Paris, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on soit là ce soir pour en parler, mais aujourd'hui, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français pour le dénigrement de deux magistrats du parquet national financier. Et donc, c'est devenu un instrument de défense d'un certain nombre d'acteurs politiques mis en cause par la justice, plutôt de se défendre sur le terrain des faits qui sont sur la table et que nous mettons sur la table, de venir attaquer certains magistrats qui n'ont par essence pas la capacité de se défendre et qui sont mis en cause publiquement sans eux avoir accès aux médias.
Georges Fenech, vous souhaitez réagir ?
Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai connu ça. Ce que je peux dire, c'est que grâce au courage, la volonté, l'abnégation de certains magistrats, ils n'étaient pas très nombreux, la justice a acquis ses lettres de noblesse et d'indépendance. Je me souviens, moi, quand j'avais instruit ma première affaire de fausse facture sous la Ve République, j'ai été désaisi très, très rapidement de cette affaire.
Vous dire d'un mot, je me souviens, quelle est cette affaire,
fausse facture du PS du Rhône, qui avait donné lieu à la première loi d'amnistie. Vous imaginez ?
C'est la campagne de 1986.
Une loi d'amnistie, d'auto-amnistie des délits politico-financiers. Vous imaginez ça aujourd'hui ? Vous voyez d'où on vient ? C'est fini. Il y a eu le dessaisissement du juge Thierry Jean-Pierre. Il y a eu les attaques contre Van Ruymbeek. Il y a eu les attaques contre Éric Alphen, contre Eva Joly. C'était une poignée, je pourrais en citer une dizaine à peu près, qui, au détriment de leur carrière, parce qu'on a tous subi, y compris moi-même, j'ai subi des préjudices de carrière importants. Van Ruymbeek n'a pas eu la carrière qu'il aurait méritée, paix à son âme. Donc, aujourd'hui, les politiques savent que face à eux, il y a des magistrats qui ne reculeront plus, qui ne se coucheront plus. Et donc ça fait peur aux politiques, voyez-vous. Ça fait peur à ceux qui ont évidemment des choses à se reprocher. Voyez-vous ? Donc, de ce point de vue, le citoyen...
On pourrait dire que c'est plutôt sain, non ? En tout cas,
responsables politiques... Mais évidemment...
Sans expliquer qu'ils pourraient avoir peur, mais du moins qu'ils peuvent craindre le pouvoir judiciaire.
Mais évidemment, d'ailleurs, moi je remarque aujourd'hui qu'il y a beaucoup moins d'affaires de corruption qu'à une certaine époque. On dirait à l'époque qu'il n'y avait pas de financement public des partis politiques. Mais aujourd'hui, il y en a, certes, mais il y en a beaucoup moins. Il n'y a plus ces juges qu'on voyait tout le temps à la télé, comme Eva Joly, Éric Alphen, juge Courroie. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué ça ? De temps en temps, on parle du juge Tournaire, de temps en temps. Mais c'est pour vous dire qu'il y a eu un grand coup de pied dans la fourmilière, qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de transparence et beaucoup plus d'honnêteté qu'on voudrait le croire.
Antoine Rouget, vous semblez en désaccord, notamment sur le fait que le nombre d'affaires de corruption semble diminuer.
C'est pas Mediapart qui le dit, hein, ce sont les données du ministère de l'Intérieur. Les dernières données disponibles font état d'une augmentation de 28% des atteintes à la probité de 2016 à 2021. Donc on est plutôt sur une dynamique d'augmentation.
Vous parlez des grandes affaires.
Antoine Rouget, vous qui avez travaillé sur d'autres affaires, et une en particulier que j'ai à l'esprit, l'affaire dite du chantage à la sextape à la mairie de Saint-Étienne, est-ce que le lien justement entre les médias et notamment la presse quotidienne régionale et les responsables politiques locaux est différente des liens qu'on peut observer au niveau national ? Est-ce que vous, dans votre travail, dans cette affaire, ça a changé votre démarche ?
Oui, on peut constater qu'il y a une grande variabilité en fait, selon et aussi les espaces géographiques, et puis les dynamiques éditoriales des journaux concernés, et aussi les rapports financiers. En fait, parce que les collectivités locales financent la presse quotidienne régionale, notamment, et qui est en plus en crise économique. Dans le cas de Saint-Étienne, il y avait une indépendance total. Et donc ça a permis aux journaux locaux d'embrayer assez rapidement sur l'affaire. D'ailleurs, ils ont réalisé des records de vente. C'est aussi à travers ces affaires-là, et quand on réhabilite une forme de journalisme aussi, qu'on retisse le lien de confiance avec les citoyennes et les citoyens. Et c'est intéressant de voir que dans des dynamiques où il y a des révélations sur des collusions médiatiques, ben en fait, le lien se distend. Et on voit les enquêtes d'opinion qui, année après année, montrent qu'il y a une défiance grandissante des citoyennes et citoyens à l'égard de la presse. Et donc à Saint-Étienne, on a vu qu'il y avait eu un relais en réalité de la presse locale qui, avec son réseau de sources, avec ses capacités d'investigation locale, a pu rebondir sur l'affaire, et toujours dans cette dynamique très vertueuse permettant pendant 2 ans et demi de reconstituer l'ensemble du puzzle. Et le rôle de la justice a été intéressant, par exemple. C'est que la justice a pu aussi, par ses moyens d'investigation, récolter de nouvelles informations qui ont aussi apporté un éclairage nouveau à cette affaire. Et on revendique d'avoir effectivement informé le public en temps réel, y compris de découvertes nouvelles de la justice, parce que pour nous, c'était important, pour les citoyennes et citoyens de cette ville, mais même au-delà, de savoir où en était cette affaire. Sinon, on aurait dû se contenter du narratif imposé par le maire en place, qui n'a pas voulu démissionner et qui dit qu'il n'y a rien dans ce dossier. Or, on est obligé de contrebalancer ça par des éléments factuels qui montrent que les découvertes de la justice confirment les premières révélations de Mediapart.
Georges Fenech, en tant qu'ancien juge d'instruction à Lyon, quel lien avec les médias vous aviez à cette époque ? Est-ce que vous en aviez même ?
Oui.
De quelle nature ?
Pas tout savouable. Bon, aujourd'hui, il y a prescription. Mais à l'époque, quand j'ai eu à instruire mon affaire de fausse facture, tout le monde s'interrogeait, pensant que c'était bidon, c'était une affaire montée de toutes pièces, etc. Et je sentais les choses mal tourner. Pas uniquement pour moi, mais pour la police judiciaire, pour la vérité, tout simplement, quoi. Et ben, un jour, j'ai cédé. Voilà. J'ai cédé en confiance à un journaliste du Monde.
Qu'est-ce que ça veut dire, vous avez cédé?
C'est-à-dire que j'ai rétabli une vérité.
Vous avez transmis des éléments?
J'ai transmis des éléments.
Donc vous avez, vous aussi...
J'ai pas transmis des PV, j'ai expliqué.
Donc qu'est-ce que...
Le journaliste m'a cru, et il a fait un grand article. Et ça s'est calmé. À partir de ce moment-là, tout s'est calmé. Et la justice a pu avancer. Il fallait cette vérité. Moi, je suis très favorable à une transparence de la justice. Voyez-vous, c'est bien qu'aujourd'hui, à l'époque, ça n'existait pas. Il y avait des procureurs qui deviennent des porte-parole dans certaines affaires. L'exemple type, l'archétype du porte-parole, c'était François Molins pendant le terrorisme, où il y avait des points presse. Il devrait y en avoir aussi pour ce type d'affaires, voyez-vous. Mais à l'époque, on était démunis. Et moi, dans l'intérêt, je dirais, supérieur de la justice, pas dans mon intérêt personnel, je dis, il faut rétablir une certaine vérité.
Mais ce qui est troublant dans...
Oui, cette... l'aveu que je vous fais aujourd'hui.
C'est ce que j'allais dire.
C'est la première fois que je le fais.
Ce qui est troublant dans cet aveu que vous nous faites ce soir, c'est qu'il peut paraître contradictoire avec ce que vous disiez un peu plus tôt, et notamment avec cette idée que le secret de l'instruction ne devrait jamais être trahi, et qu'aucune pièce ne devrait être transmise aux journalistes.
Dans l'état actuel, mais moi je suis pour la suppression du secret d'instruction. Il faut le faire voler en éclats, ce secret de polichinelle. Ou alors, vous laissez entre les mains de Mediapart, qui a accès direct au dossier, le soin de nous informer, peut-être en distillant, peut-être en, je dis pas en tronquant, mais peut-être en choisissant ce qui... Voilà. Donc, il faut la transparence totale, comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, comme en Allemagne, comme en Italie, où on a supprimé le système inquisitoire au profit d'un système contradictoire, transparent, public, et non pas dans un cabinet fermé, à l'abri des regards, et sous la responsabilité d'un seul homme, le juge d'instruction. Voyez-vous ? Et je pense que c'est ce que nous vivons comme difficulté entre cette presse-là d'investigation, encore une fois, je pense, elle est nécessaire, elle est de l'oxygène pour la démocratie, et des juges qui travaillent quelquefois sous le regard et sous les critiques. La seule manière d'en sortir, c'est que notre justice évolue vers une justice contradictoire, celle qui était d'ailleurs souhaitée à l'époque par Robert Badinter. celle qui a été souhaitée par la commission Delmas Marty avec Pierre Truche, etc., à une certaine époque, et qu'on a mis sous le boisseau depuis le jour où Nicolas Sarkozy a eu la maladresse de dire qu'il fallait supprimer les jeux d'instruction. Mais c'était pas comme ça qu'il fallait avancer. C'est un vrai sujet de démocratie, ça, le fonctionnement de la justice inquisitoriale.
Antoine Rouget, est-ce que vous rejoignez Georges Fenech sur cette volonté de transparence, justement, et sur l'abolition du secret de l'instruction?
En tout cas, sur la question de la transparence et des faits qui sont au cœur des affaires politico-financières, c'est pour moi incontournable, surtout qu'on dans un contexte de déséquilibre énorme, comme vous le disiez. On peut avoir des conférences de presse de procureurs sur des faits de terrorisme, oui. Sur des grands faits divers.
Oui.
Qui sont extrêmement commentés, mais on n'a jamais d'explication sur des affaires politico-financières qui sont sensibles. Et donc l'institution judiciaire...
Contrairement à ce qui se fait d'ailleurs dans d'autres pays, contrairement à ce qui se fait en Grande-Bretagne...
Aux États-Unis,
mais exactement.
Au Brésil, par exemple. C'était intéressant. Le parquet national financier en France, depuis la France, a enquêté sur les soupçons de corruption des JO de Rio. Eh bien, il y a eu une conférence de presse à Rio pour expliquer pourquoi le président du comité olympique et d'organisation brésilien a été incarcéré, pour expliquer en transparence. Eh bien, faute d'explication et de modèle de ce type en France, eh bien, évidemment qu'il faut informer. Sinon, on se retrouve avec des mis en cause qui vont à la télévision, qui disent tout ça est un complot, il n'y a rien dans le dossier, c'est une justice politique, et aucun contre-discours en face.
Au-delà, Georges Fenech, est-ce qu'on manque en France de prendre la corruption au sérieux?
Ah oui, vous savez, il y a eu des tas de dispositifs depuis une trentaine d'années, le financement des partis politiques, tous ces textes nouveaux comme le favoritisme, la prise illégale d'intérêt, tous ces organismes...
La haute autorité pour la transparence de la vie publique.
La haute autorité, le déontologue à l'Assemblée nationale, le parquet national financier, et que sais-je encore...
L'Agence française anticorruption.
Oui, je crois qu'on peut pas faire plus. Voyez-vous, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a un recul, mais vous citez des chiffres, je ne connaissais pas, 28% d'augmentation, à mon avis, ce doit être des petites affaires. Il n'y a plus ces grandes affaires. Moi, je constate que dans les grands partis politiques, il n'y a plus ces grandes affaires qu'on a connues dans les années 70-80.
Est instruit en ce moment le procès d'une très très grande affaire, que certains appellent même l'affaire des affaires, Georges Fenech.
Laquelle ?
L'affaire dite, en tout cas, Sarkozy-Kadhafi.
Ah non, on revient à cette affaire-là. Mais là, on n'est plus dans une histoire de financement de partis, etc. Là, on est dans d'autres choses.
La corruption... On est quand même dans le cadre du financement d'une campagne présidentielle.
On parle d'associations de malfaiteurs, on parle de choses absolument effrayantes, hein, qui, vraiment, j'espère, ne sont pas une réalité, au moins pour l'intérêt de notre pays. Quoi.
Antoine Rouget, en quelques mots sur la façon dont on prend en sérieux ou non la corruption aujourd'hui comme pièce centrale du débat public.
Je trouve très éloquente votre intervention. La manière dont aujourd'hui encore on minore la gravité de cette affaire, qui est le soupçon de corruption d'un ancien président de la République par une dictature, avec des contreparties dignes de la livraison de matériel de surveillance au régime de Muammar Kadhafi. Tout ça est documenté. Donc je trouve encore aujourd'hui qu'on n'a pas réalisé, y compris en termes de leçons, ce que ça implique. Vous parliez des réformes. Après l'affaire Cahuzac, il y a eu un certain nombre de réformes. Mais la Commission nationale des comptes de campagne, qui est censée vérifier la régularité des campagnes présidentielles, elle a failli sur 2007, elle a failli sur 2012. Il y a des enquêtes sur 2017-2022. Ça interroge quand même démocratiquement aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion, même de ce débat et parfois de ces convergences de vues plus rares, il est vrai. Antoine Rouget, vous êtes journaliste au pôle enquête de Mediapart, et Georges Fenech, ancien juge d'instruction à Lyon, député honoraire du Rhône, Les Républicains. Vous n'avez plus aujourd'hui d'engagement politique. Merci à vous deux.